L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble avec nos invités l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et cette semaine, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté de la bourse, puisqu'on a signé un premier semestre extraordinaire. En tout cas, on n'avait pas vu ça depuis 1998 avec un plus 17% de hausse. On va s'interroger, est-ce que le marché peut aller plus haut? Quelles sont les valeurs à privilégier, celles à éviter? Et puis au-delà, comment bâtir une gestion patrimoniale de qualité? Comment conquérir de nouveaux clients avec le digital, les réseaux sociaux? Voilà l'ensemble de ces sujets qu'on va balayer avec nos invités. On est ravis d'accueillir Anne Dansel. Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint de COGEFI Gestion. Merci d'être là. Et à vos côtés, Victor Piriou, directeur du développement. Bonjour Victor. Bonjour. Responsable des relations partenaires. Voilà, on va être très précis. En face de vous, chers amis de COGEFI, donc ce n'est pas un match gérant CGP, mais en tout cas, on a deux conseillers en gestion de patrimoine. On accueille Jean-Luc Henry. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Fabrice.
Le responsable fondateur du cabinet Jean-Luc Henry, voilà, éponyme. Et puis, à vos côtés, eh bien, on accueille Edouard Delahoussaye. Bonjour Edouard.
Bonjour Fabrice.
Voilà, vous avez créé ELH Invest il y a quelques temps. Un bon timing, on va voir dans un instant, hein, juste avant crise de la Covid-19. Et on verra effectivement comment vous avez traversé les uns et les autres cette période. Mais tout de suite, on va s'intéresser au marché Hebdo Patrimoine. C'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Sur le plateau, les spécialistes de COGEFI Gestion, Anne Danselme, un petit mot justement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore sur COGEFI.
Alors COGEFI Gestion, en fait, c'est la société de gestion de l'entreprise d'investissement COGEFI. C'est une société ancienne, hein, puisqu'effectivement, on a plus de 30 ans d'existence. C'est une société qui, au départ, société de gestion qui était au départ destinée à gérer la clientèle privée de COGEFI. Et puis, au fil de l'eau, on a ouvert des OPC, ouvert à l'externe, et on développe, en fait, depuis maintenant quelques années, notre développement en externe à travers les plateformes et les assureurs.
Voilà, une gamme de fonds qui sont sur les actions, sur les obligations.
Exactement, on a deux classes d'actifs, les actions et les obligations. On a 9 fonds ouverts, 4 sur les actions, dont 2 sur les small caps, et puis 2 flexibles et de l'obligataire.
D'accord, on s'intéresse tout de suite à ce qui se passe sur les marchés, ces marchés financiers qui ont connu un énorme trou d'air, on s'en souvient, lors du déclenchement de la pandémie, avec le confinement, etc. On est perdu jusqu'à moins 35% très très rapidement. Mm-hmm. Et puis finalement, on a eu toutes les lettres, vous vous souvenez de l'alphabet, reprise en V, reprise en U, reprise en W. Bon, finalement, on a eu une reprise en U assez forte du côté de la bourse, voire pratiquement en V. Et on est même revenu à des plus hauts qu'on n'avait pas vus depuis les années 2000, si mes souvenirs sont bons. Où est-ce qu'on en est actuellement? Est-ce que le marché est trop cher?
Écoutez, le marché, il a rebondi très vite. Alors évidemment, c'est jamais très confortable quand on a des rebonds aussi rapides, mais il y a eu des raisons fondamentales à cela. La première, c'est qu'effectivement, on a une reprise qui est plus forte que celle qu'on avait anticipée au départ. On a été très aidé par les gouvernements, par les politiques monétaires. Et effectivement, on a des banques centrales qui ont été extrêmement accommodantes et qui ont vraiment tout mis en œuvre pour qu'on ait vraiment une situation qui se passe le mieux possible. Donc, on a une reprise qui est forte. On a en même temps des banques centrales qui nous permettent de maîtriser le niveau des taux. Donc, c'est un petit peu le meilleur des mondes pour la valorisation des marchés.
C'est vrai que ces marchés reprennent de l'avant. On se tourne vers les CGP. Que vous disent les clients, Jean-Luc Henry? Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils sont montés dans le train au bon moment? Est-ce que vous les avez fait... comment vous avez... C'est pas évident dans cette période de très forte volatilité, moins 30 et puis ensuite derrière plus 40, plus 50 ou plus, on rattrape tout et même on passe au-dessus. Comment vous avez géré cette période? Que vous disent vos clients?
Alors, je dirais débat, ça va dépendre déjà de la clientèle, c'est-à-dire que les anciens clients qui sont plus ou moins habitués à ce genre de contre-revenu sur les marchés, celui qui a investi il y a 25 ou 30 ans, il est clair qu'il a déjà subi des baisses similaires, il a subi la crise de 2008, entre autres. Et donc,
peut-être même la bulle Internet de 2001 pour les plus anciens.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, avec le recul... En fait, non, je dis qu'un client, c'est comme un enfant, ça doit s'éduquer. ça va s'équilibrer parce qu'en fait, surtout en France aujourd'hui, le client est relativement peu informé, ou en tout cas pas informé comme on le souhaiterait. On commence à dire qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui reviennent, les particuliers, sur les actions. J'espère que c'est vrai. Je ne sais pas trop dans quelle proportion.
Mais pour vous, par exemple, pour votre clientèle, ça veut dire que vous diriez que les plus jeunes ont paniqué davantage que les anciens ou peut-être sont sortis à un mauvais moment du marché ?
Non, encore une fois, ce qu'il faut, c'est leur donner la bonne information et leur dire que ce n'est pas parce que le marché baisse soudainement, et c'est vrai que la baisse que vous avez indiquée, elle a été très rapide et assez forte. Et donc, c'était difficile. On a eu une séance à plus de moins 12. Mm-hmm. Je crois que c'était la troisième séance historique de baisse aussi importante. Donc, c'est trop tard. Je veux dire, on ne doit pas réagir après coup. C'est ça qu'il faut leur apprendre. C'est-à-dire qu'on ne vend pas quand on a eu déjà une baisse importante et vive. Au contraire, si on peut, on essaie d'aller à contresens et de commencer à investir. Et c'est là la difficulté. Parce qu'en fait, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que dire à quelqu'un, bah, regardez, ça baisse, donc il faut y aller. C'est très difficile.
Et à contrario, quand c'est très haut, on serait peut-être tenté de descendre du train un moment avant que la machine s'emballe. On continue notre tour de table avec Edouard Laoussé, ELH Invest, cabinet que vous avez créé début 2020. C'est bien ça ?
Exactement. Au début
très bon timing, excellent.
Je ne l'ai pas choisi, malheureusement, mais j'en suis sorti très bien.
Alors, racontez-nous, passez plutôt dans l'immobilier. Enfin, en tout cas, premières expériences plutôt dans l'immobilier. Et ensuite, vous décidez donc de créer votre cabinet en gestion de patrimoine.
Effectivement, j'ai aujourd'hui 7 ans d'expérience immobilière, principalement sur de l'investissement locatif, qui était une grande partie de ma clientèle. Et j'ai profité d'une période pour pouvoir me réorienter. Je me suis formé pour ça, parce qu'on ne passe pas de l'immobilier classique sur la transaction d'investissement à la gestion de patrimoine. Mmh. Donc j'ai eu une période de formation et pour acquérir de nouvelles compétences. Et j'en ai profité pour monter ma société début d'année 2020, effectivement, juste avant la pandémie. Je n'ai pas dû m'adapter, comme d'autres cabinets en gestion de patrimoine qui avaient plus d'expérience que moi, plus d'ancienneté, parce que j'ai commencé directement sur des nouvelles méthodes de communication avec mes clients.
Donc à distance.
À distance, tout à fait.
Sans pouvoir se voir, évidemment.
On se voyait virtuellement. Mais je dirais que c'est rentré dans les mœurs très rapidement. Donc du coup, tant du côté du conseiller en gestion de patrimoine que du client, c'était tout aussi simple parce que ça facilitait les choses et ça permettait d'avancer sur leur projet.
Vous aviez déjà des clients là, en début 2020 ou pas encore ?
Non. Non. Non, pas du tout.
Donc du coup, au moins, ils n'ont pas paniqué ou ils ont paniqué ailleurs avant de vous connaître.
Tout à fait.
Allez, on termine le tour de table avec Victor Piriou. Victor, vous, on voulait savoir, puisque vous êtes, vous voyez les flux, vous êtes au contact des partenaires. Est-ce qu'il y a justement eu un vent de panique ? Est-ce qu'il y a eu un arbitrage peut-être entre actions, obligations ou d'autres classes d'actifs ? Comment s'est passé ces quelques mois de pandémie et ce choc quand en mars 2020 on apprend qu'on va tous être confinés et que l'économie s'arrête ?
Alors, ça s'est très bien passé parce que les conseillers en gestion de patrimoine, justement, sont conseils vis-à-vis des clients privés. Et donc, on a appris, vous savez, les Français achètent quand c'est haut, ils vendent quand c'est bas. Donc, et donc, c'est pour ça qu'on a fait.
Parlez bien dans le micro, comme ça, on vous entend.
Et c'est pour ça que je dis ça. Il y a une vraie pédagogie qui est mise en place aujourd'hui par les conseillers en gestion de patrimoine et qui nous permettent aussi de nous investir sur de la qualité. Et en fait, qu'est-ce que cherchent aujourd'hui les clients finaux ? C'est de la vraie qualité et on va arriver finalement à une vraie séparation entre la fausse gestion active et la vraie gestion active.
Alors, on précise pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas évident. On a fait déjà de nombreuses émissions sur ce plateau sur effectivement la montée des fameux trackers, les ETF, où effectivement il n'y a pas forcément de gestion. On se contente de suivre un actif, on prend le CAC 40. Il faut que le gérant de l'ETF, en tout cas, soit très très près de la performance du CAC 40, de l'Eurostock 50, du Dow Jones, etc. Quand vous parlez de gestion active, c'est complètement différent. On a un gérant qui a des convictions et qui va investir sur des secteurs ou sur des valeurs. C'est ça que vous appelez la vraie fausse gestion active ou passive ?
En fait, ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'on l'a vu, les marchés ont été très rapides, en hausse et en baisse. On a touché le point bas le 18 mars. Et on a vu, il y a des convictions de partout. Et on a vu vraiment les convictions des gérants qui se sont matérialisées et cristallisées avec les performances de 2020. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que quand vous avez capté cette clientèle-là et que vous avez capté la confiance de du client final, il ne faut jamais oublier que notre métier, il est en relation avec le conseiller en gestion de patrimoine parce que finalement, on est au service d'un projet commun. C'est ce que je répète, acheter une voiture, acheter une maison, s'offrir une retraite, faire de la prévoyance. Et donc là, les marchés aujourd'hui, en 2021, ont beaucoup, beaucoup augmenté. Il fallait suivre aussi la rotation cyclique. Nous, on a réussi à le faire. Et en fait, c'est avec beaucoup de pédagogie qu'on apprend aux clients que c'est un investissement sur 5 ans. Il faut savoir aller chercher de la volatilité. Et ce que nous, on dit chez nous, c'est si vous sélectionnez vers la qualité, alors sur le long terme, vous allez pouvoir délivrer une performance de haut niveau. Je vais juste faire une image. C'est que quand vous traversez, par exemple, l'Atlantique en bateau, c'est pas la hauteur des vagues qui est importante. C'est la qualité de l'équipage et la structure du bateau. La hauteur des vagues, c'est la volatilité. Ah, si vous arrivez en 5 ans, en 10 ans, l'objectif, il est là. C'est si vous avez une gestion avec des convictions et un processus de gestion extrêmement qualitatif, avec des gérants qui ont une force de distinction entre des bonnes et des mauvaises valeurs, ou des moins bonnes valeurs, pardon, vous allez arriver à bon port, et c'est notre travail tous ensemble d'aller déployer cette énergie-là.
Et voilà. Et évidemment, il faut essayer d'éviter de monter dans le Titanic. Hein,
exactement.
Là, on n'arrive surtout pas à bon port. Il y en a aussi, malheureusement, il y en a peu, mais il y a certains écueils. Il y a des milliers de fonds sur le marché, Jean-Luc Henry. C'est pas évident. On se dit, je crois qu'il y en a plus de 20 000. Il y a 600 sociétés de gestion. Donc, il y a l'embarras du choix. On a une industrie française à la pointe sur cette gestion de fonds. Comment on fait pour choisir, pour ses clients, les fonds qui sont le mieux adaptés à des profils ? Travailler comment aujourd'hui, ça semble compliqué.
Alors, compliqué, oui, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire, en fait, il faut au préalable avoir l'information donc, sur les différents fonds dans différents types de catégories. Et nous, quand je dis nous, c'est parce que je suis vice-président du groupement Finadep, on est 17 cabinets. Et au sein du cabinet, on s'est structuré avec notamment un comité d'investissement qui se réunit régulièrement, presque toutes les semaines, au moins tous les 15 jours, souvent d'ailleurs avec des intervenants, donc qui sont des sociétés de gestion, des gérants, et justement pour avoir, une fois que nous on a fait au préalable une présélection sur le papier par rapport aux informations qu'on a, les communications qu'on a des sociétés de gestion, quand un fonds nous intéresse dans sa catégorie parce qu'il a une rentabilité régulière, parce qu'il surperforme régulièrement ses indices, eh bien, on essaye de demander au gérant de venir nous voir ou on se déplace. Et puis on a la personne en face de nous et c'est ça la plus-value que nous, on peut apporter en tant que CGP par rapport aux banques privées, c'est qu'on a le gérant en face qui nous donne son information directe.
Ça veut dire que sur ces centaines ou milliers de fonds, vous tamisez et vous découvrez les pépites, mais ça passe aussi par un face-à-face. Alors, Anne d'Anselme, même question, mais de l'autre côté, c'est pas évident de comment on fait justement pour séduire. Alors, bien sûr, il y a la performance absolue, mais une performance, ça veut rien dire. S'il y a aussi de la volatilité, effectivement, si on fait plus 40% une année, mais en prenant des risques énormes, ça a pu coûter cher à certains, on va pas les nommer. Comment vous faites pour séduire justement les CGP ou les groupements de CGP ?
Je crois que c'est effectivement le process, hein, comme disait Victor, qui est très important, et la constance du process qui est, je pense, importante, parce que c'est justement cette méthode qui permet dans la durée de pouvoir effectivement démontrer que les méthodes de gestion sont bonnes et correspondent exactement aux objectifs des clients. Nous, chez Cogefi, c'est vrai qu'on a au départ vraiment une clientèle privée que l'on rencontre, que l'on connaît, et on a une responsabilité direct vis-à-vis de ces personnes, un peu comme les CGP. Et on sait effectivement qu'on doit délivrer certes de la performance, mais en ayant une grande régularité et surtout en préservant le patrimoine de nos clients dans la durée. Et ça, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on a compris effectivement qu'on avait besoin de délivrer une gestion qui soit de qualité dans la durée, on est en capacité normalement de pouvoir séduire aussi des CGP puisqu'on a les mêmes objectifs.
Effectivement, et justement pour les séduire, il fallait trouver aussi les valeurs de qualité. On a trouvé beaucoup dans la tech et dans le luxe, justement. Ce sont les options, vos fers de lance sur lesquels vous avez beaucoup investi. On va en parler dans un instant. On verra aussi les méthodes de recrutement dans le digital avec en l'utilisation des réseaux sociaux. On fait une courte pause, on revient tout de suite dans l'hebdo patrimoine. connaissez ?
Ah bah oui.
On vient d'entendre Bon Entendeur Françoise Hardy, enfin Bon Entendeur remixé, Françoise Hardy remixé par Bon Entendeur, Le Temps de l'Amour.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On s'intéresse ce matin au premier semestre parfait, hein, enfin très bon en tout cas en bourse et à la gestion de qualité qu'on peut faire justement, on va le voir à travers eh bien, la sélection des fonds et trouver les bons fonds. Et puis derrière les fonds, il y a des gérants et puis les gérants, ils ont des convictions. Les convictions, il fallait plutôt toute cette année 2020 et 2021 être sur la tech et sur le luxe. En tout cas, ce sont les deux secteurs qui ont le mieux performé. Anne Dansel, les raisons sont connues. La tech, on était tous un peu bloqués chez nous. Voilà. Et on n'a jamais autant utilisé le numérique, hein, les uns et les autres, même professionnellement. Et le luxe, divine surprise, ça résiste. Et malgré le fait qu'on ne pouvait plus se ruer en boutique, et ça a continué à très bien fonctionner.
Le luxe est reparti très, très vite. Ouais. Effectivement, dès la réouverture de l'économie chinoise, on a vu effectivement que le secteur... repartait très bien. Et puis, ce sont des sociétés aussi qui ont investi dans le digital déjà depuis un certain temps et qui ont été en capacité très rapidement de distribuer via le digital. Mais bien entendu, l'Asie, et en particulier la Chine, a été un driver de croissance très fort et de rebond très fort pour les acteurs du luxe. Mmh. Voilà. Mais de manière un peu plus générale, c'est vrai que bien sûr, le digital également était et toutes les sociétés liées au digital ont très très bien fonctionné puisqu'on avait des réels besoins concrets d'utilisation et donc la demande a été très forte. Mais de manière un peu plus générale, je dirais que le marché évidemment a été pris dans une tempête. Il y a eu une incertitude très forte sur ce qui allait se passer au niveau économique, macroéconomique. Et en fait, je pense que les investisseurs se sont véritablement concentrés sur les sociétés qui présentaient en fait les profils de croissance les plus résistants. Et en plus, effectivement, des bilans extrêmement solides. Et je crois que ça, c'est notre fer de lance, hein, c'est chez Cogefi Gestion. Et on a bien vu qu'effectivement, entre le mois de mars 2020 et puis aujourd'hui, c'est vraiment ces éléments-là et ces critères de sélection-là qui ont été très discriminants. Pour bien fonctionner dans la durée.
Ouais. Je ne sais pas si quand vous conseillez vos clients, ça va jusqu'à l'analyse des valeurs, mais Jean-Luc Henry, est-ce que justement il y a certains clients peut-être qui vous ont dit moi je peux investir sur tel ou tel secteur, ou c'est vous qui faites finalement la sélection pour eux ?
Alors c'est vrai qu'ils peuvent arriver avec des avis bien tranchés, souvent parce que ils s'y intéressent ou ils ont des informations. Voir des amis qui leur ont dit, tiens, tu devrais acheter telle valeur, je l'ai acheté, j'ai gagné tant.
Oui. Mais, là, le bon tuyau dans la cinquième, là.
Le problème, c'est que c'est comme tous les joueurs. Enfin, ils parlent toujours quand ils ont gagné, jamais quand ils perdent. Et en fait, il faut s'inscrire dans la durée. Nous, notre devoir, en tant que conseiller, c'est de conseiller le client dans la durée pour développer son patrimoine et notamment ses actifs financiers. Donc, un conseil sur une valeur comme ça... à donner pour le moment, c'est pas notre truc. On n'est pas des traders, on n'est pas collé à l'écran toute la journée. C'est pas le but du jeu.
Tiens, la performance justement, parce que c'est vrai que évidemment les clients ils veulent toujours la meilleure performance sans le moindre risque, ce qui n'était pas évident quand même à faire, surtout l'année dernière. Ils attendent quoi en fait de vous, à partir de combien ils sont contents, parce qu'on sait que les taux sont au tapis, enfin les placements sans risque, ce fonds euro en particulier qui baisse chaque année, qui se réduit comme peau de chagrin. Aujourd'hui, ils attendent quoi de vous, la performance du marché, un petit peu plus, un petit peu moins, ou quelque chose de régulier entre 5-7% par an ?
Alors, performance du marché, ça, il ne faut pas s'aventurer là-dessus. La preuve, c'est exactement ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, tout à l'heure, Fabrice, vous avez dit, depuis le début de l'année, on a un marché qui surperforme, qui est à plus 17.
Ça va être dur de faire plus.
Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'indice. Et en plus, cet indice est limité. C'est, comme vous le savez, le CAC 40. Mais aujourd'hui, pour un gérant, et je pense qu'en face, on ne va pas me contredire, battre les indices aujourd'hui, c'est hyper difficile. Pourquoi ? Parce que les indices, si on regarde les 40 valeurs que compose le CAC 40, dans ces valeurs-là, il y en a un tiers, donc tout ce qui est luxe et bancaire, en l'occurrence, et la tech pour une partie, qui en fait font la performance.
La majorité de la performance.
Toutes les autres, au contraire, il y a encore pas mal de valeurs de CAC 40 qui sont négatives depuis le début de l'année.
Bien sûr.
les Renault et compagnie.
Donc finalement, ça se plaidait un peu à ce qu'on disait tout à l'heure à Victoire, c'est-à-dire peut-être certains qui font de la fausse gestion active, qui se contentent d'acheter tout le CAC, hein, l'ensemble du CAC, et c'est tout à fait possible, et puis qui servent cette performance quoi qu'il arrive.
En fait, aujourd'hui, la période est très faste aux gérants indiciels, hein, parce qu'aujourd'hui, les indices sont très performants. On sait que ça ne va pas durer. Donc, en fait, il faut essayer de trouver, en effet, des pépites et aller en dehors de ces marchés indiciels pour essayer de trouver, notamment, je pense notamment à tout ce qui est small. Les small caps, aujourd'hui, elles ont énormément souffert en 2018. C'était la catastrophe pour certaines. Eh bien, elles reviennent sur les marchés aujourd'hui. Elles n'ont pas encore fait le rattrapage. Et pour moi, c'est celles qui ont le plus de potentiel de redressement.
Très bien. Donc là, l'ensemble de cette classe d'actifs, donc ces moyennes et petites valeurs, qui effectivement ont subi un coup de tabac dès 2018 et ont du mal à récupérer, et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Édouard Lelousse, LH Invest, vous asseyez, j'espère que vous avez conquis vos premiers clients en tout cas, avec une méthode un petit peu particulière. Vous utilisez les nouveaux outils, réseaux sociaux en particulier, mais pas forcément ce qu'on croit. Alors qu'est-ce que vous utilisez pour démarcher vos premiers et tous vos futurs clients, on imagine ?
Je dirais que le meilleur canal aujourd'hui, ça reste tout de même la recommandation en direct par des clients qui sont satisfaits de notre travail. Mais effectivement, j'ai dû pas m'adapter, mais rebondir sur la pandémie en travaillant sur les réseaux sociaux. Alors, pas LinkedIn, comme pourraient le faire certains, parce que j'estime que ce réseau social est dédié entre professionnels, mais plutôt sur un réseau social comme Facebook ou Instagram, qui me permet de toucher en direct ma propre communauté, parce que finalement, je travaille avec mon propre réseau. L'idée n'est pas de les assailler avec de l'information et qu'ils aient envie de se désabonner de mon compte et ne plus entendre parler de moi, parce que ce sont des choses qui peuvent ne pas les intéresser ou qui peuvent ne pas comprendre, mais transmettre de l'information, on l'a dit tout à l'heure, éduquer, transmettre un savoir, alerter sur certaines choses, sur l'actualité, sur des produits qui peuvent être intéressants pour eux, dont ils ont déjà entendu parler, mais dont ils ne connaissent pas le fonctionnement ni les process. Je suis là justement pour leur apporter ces solutions, pour leur expliquer. Dans chacun de mes rendez-vous clients, je passe quasiment 2 bonnes heures à faire de la pédagogie, à enseigner le produit à mon client pour qu'il comprenne où est-ce qu'il va et comment ça va fonctionner. On est principalement sur les investissements qui sont long terme, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je prône la diversification. Donc, effectivement, ils vont arriver des convictions, des valeurs sur certains produits qu'ils vont vouloir voir dans leur assurance vie, par exemple, si c'est le cas. Oui. Mais on va tout de même diversifier avec différents produits parce que l'assurance vie, c'est une enveloppe financière dans laquelle on peut retrouver un bon nombre de produits. On a le fonds en euros, qui, effectivement, aujourd'hui, je parle trop.
Non, c'est pas ça. Je voudrais revenir sur les réseaux sociaux. C'est intéressant parce que ce que disait Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, il disait Facebook, c'est le barbecue au fond du jardin. LinkedIn, c'est le bureau. Or, vous dites, vous êtes plus barbecue finalement au fond du jardin pour trouver vos prospects.
On peut dire ça si on veut. Aujourd'hui, j'utilise pas Facebook en priorité. Je passe par Instagram, qui relaie automatiquement sur Facebook. Pour moi, Instagram, c'est une génération qui est la mienne. Et Facebook, c'est la génération précédente. Ça me permet de toucher les deux à la fois, mais simplement en informant. Je ne vais pas chercher à conquérir de nouveaux clients, si finalement oui, mais ce n'est pas le but premier. C'est simplement d'informer, dire ce que je fais, à rappeler mon travail. Et ça peut me permettre de faire parler de moi lors d'un dîner, une réception, peu importe, tous les jours. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on m'appelle.
Et ça travaille pour vous, 24 heures sur 24, puisque c'est vrai que c'est là où il y a quand même le plus de monde. Réseaux sociaux pour Cogefi, les sociétés de gestion, où vous êtes penché sur le sujet, c'est un canal de recrutement pour vous ?
En fait, je rebondis sur les deux choses. C'est qu'aujourd'hui, et Noir a raison, c'est qu'il faut aller, et vous aviez raison aussi Jean-Luc, c'est que tout le monde aujourd'hui va acheter son shampoing chez L'Oréal et nous dit je vais acheter du L'Oréal ou je vais acheter des foncières immobilières parce qu'il y a une décote avec ses propres convictions. Nous, notre travail, c'est de vraiment aller sélectionner des valeurs et d'éduquer les gens. Et donc, évidemment, on va sur les réseaux parce qu'il faut aller chercher le jeune actif, et c'est là où je te rejoins, Edouard, de 28 à 30 ans qui commence à gagner bien sa vie. Et il faut les éduquer dans la durée. Donc oui, LinkedIn, pour moi, et pour Cogefi, je crois qu'on a triplé le nombre d'abonnés qu'on avait sur notre page. C'est vraiment le moteur de... Déjà, c'est gratuit. En plus, vous pouvez sélectionner votre réseau et l'envoyer à des gens... ciblée. Et donc, c'est une force de communication pour moi aujourd'hui, enfin pour nous aujourd'hui, LinkedIn, qui est ultra puissant.
Et puis, vous mettez même des annonces d'emploi. Je vois offre de stage en ce moment pour septembre 2021. Bon, LinkedIn est fait à la base pour ça, même si c'est devenu un réseau social plus large maintenant avec beaucoup d'infos.
Si effectivement, il y a des gens qui cherchent un stage, qui nous écoutent, on a besoin d'une force de vente. pour nous aider sur Patrimonia, où je crois qu'on sera aussi avec vous et Club Patrimoine.
Oui, il y a effectivement le gros salon des conseillers en gestion de patrimoine, la convention Patrimonia fin septembre. Anne d'Anselme, sur les réseaux sociaux, bon alors, un petit aparté, mais c'est vrai qu'en plus, boursièrement, c'est assez exceptionnel, hein, c'est aussi des aventures incroyables, c'est valorisé maintenant, je crois que Facebook vient de dépasser les 1000 milliards de capitalisation, 1000 milliards de capitalisation, donc elle rejoint le club des 1000 milliards, donc il y a Apple, de plus de 2000, il y a Microsoft également, et puis Facebook, qui l'eût cru, il y a encore quelques temps, finalement, Mark Zuckerberg a bien fait de ne pas se vendre un seul petit milliard il y a quelques années.
C'est certain, oui, mais c'est sûr que la valorisation de ces actifs a énormément progressé, mais c'est en lien aussi avec le nombre de clients, enfin la base de clientèle énorme qu'elles ont su développer. Et au-delà finalement des résultats qu'elles sont capables de générer aujourd'hui à l'instant T, c'est surtout les perspectives de résultats futurs qui sont déjà valorisées à travers une base de clientèle énorme, monumentale. Et voilà, c'est presque... Enfin, je veux dire, une nouvelle zone géographique. Enfin, ils ont créé un nouveau monde à eux.
C'est incontournable aujourd'hui. Alors, dans les gestions, c'est difficile de s'en passer, puisqu'ils tirent la performance.
Bien sûr.
Au-delà, bon, pour l'utilisation pratique, pour vous, est-ce que c'est un axe de développement de se dire il faut aussi craquer un peu le code, même si on est un peu réticent? C'est vrai que les sociétés de gestion ou même les CGP, en général, on aime bien le contact. Mmh. On aime bien se retrouver dans des conventions, dans des espaces un peu sevrés. Est-ce qu'il faut accélérer justement sur cette partie?
Je crois que les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que vous avez besoin du digital pour exister, parce que c'est un mode de communication qui est absolument nécessaire pour tout le monde aujourd'hui et qui vous permet d'exister au jour le jour, à l'instant présent, permanent. Et d'un autre côté, vous avez besoin des contacts, parce qu'on reste des êtres humains et c'est toujours important finalement de véhiculer... Parce qu'on fait son image à travers les personnes, et c'est ce que vous faites aujourd'hui d'ailleurs.
Exactement, voilà. Et puis de séduire aussi son auditoire. Bon, Jean-Luc Henry, on ne vous a pas demandé Snapchat, Instagram?
J'ai cru que vous alliez m'oublier. non, mais moi ça va aller assez vite, parce que en fait les réseaux sociaux, Edouard, je comprends, il a même parlé de deux générations, moi je serais peut-être la troisième encore derrière. J'utilise, le seul que je peux utiliser encore un peu, c'est en effet LinkedIn. Mais les deux autres, pas du tout, parce que ben, moi, je dirais que, compte tenu d'ancienneté, ça fait 28 ans que j'ai ce cabinet. Donc aujourd'hui, je gère que par relationnel.
Ouais. J'ai noté, mais il l'a dit, c'est aussi bouche à oreille. Voilà, c'est-à-dire recommandation, c'est votre première source.
La recommandation de client, parce que quand un client est satisfait, ben, il en parle à ses amis, à ses copains, à sa famille. Mais il y a aussi un pan qu'on n'a pas évoqué, c'est la prescription. Et la prescription, donc par des professionnels comme les notaires, les avocats, les conseillers fiscaux, ça aussi c'est intéressant. C'est très difficile à faire parce que ce sont déjà des gens qui sont souvent sollicités. Et puis il faut vraiment qu'ils soient convaincus. En fait, le meilleur moyen, moi mes prescripteurs sont des clients. Voilà.
D'accord.
Ces professionnels-là sont clients. Parce que en étant clients, ils s'aperçoivent de la qualité de notre travail et de ce qu'on est capable d'apporter comme plus-value par rapport à une banque classique ou même une banque privée.
Bien sûr. Et puis l'intérêt, c'est qu'ils vous ont vu aussi à travers les crises et dans les moments compliqués. En général, hein, quand tout va bien, on vous appelle moins. Hein, mais peut-être que ça a plus sonné en mars. Bon, dernière page dans un instant de cet hebdo patrimoine. On s'intéressait à un sujet qui passionne les Français, que ce soit pour les CGP ou pour les conseillers, pour les gérants et les fabricants de ces fonds. C'est l'ISR, l'investissement socialement responsable. Il a le vent en poupe. Il est de plus en plus demandé. Est-ce qu'on peut encore faire des fonds sans ISR ou sans ces fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance? On va le voir dans un instant. Hebdo patrimoine, c'est juste après ça. Jackson 5, I want you back sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, on s'intéresse au bilan de ce premier semestre en bourse. Que faire voilà, après cette très belle performance? Et puis au-delà, des nouveaux produits qui apparaissent, et notamment la folie de l'ISR, l'investissement socialement responsable, la finance durable. Anne Dansep, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un vrai engouement qui est peut-être en train de s'accélérer après cette crise pandémique. Je crois que vous avez d'ailleurs monté un fonds ISR.
Oui, on a labellisé un fonds ISR l'année dernière. Donc COGEFI, Elixir, ISR. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une démarche qu'on a déjà depuis un certain temps chez COGEFI. Déjà au niveau de la gouvernance, hein, c'est vrai qu'on a toujours voté. Donc dans la durée, on était toujours actifs aussi sur ces points-là. On avait signé les PRI en 2018, donc ça fait déjà maintenant 3 ans. Et puis on est passé à l'étape supérieure l'année dernière avec effectivement la labellisation de COGEFI et Elixir.
Les PRI, c'est les objectifs de développement durable, hein, c'est ça en bon français.
Exactement, oui, pardon.
Victor Pierreux, juste vous qui êtes au contact des partenaires, est-ce que vous mesurez une certaine appétence? Est-ce qu'il y a une montée justement en charge? Alors, c'était d'abord les institutionnels qui ont plaidé pour avoir des fonds justement ISR. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de sociétés de gestion qui transforment leurs fonds, leur gamme, ou qui s'approchent de ces fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Votre sentiment là-dessus?
Le sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé au moins d'avoir signé les PRI et d'avoir une gestion responsable. On a tous, et on l'a dit tout à l'heure, on est au service d'un projet de vie de particulier. Et quand on s'inscrit dans la durée, on s'inscrit aussi dans un univers global. Et donc, en fait, on met l'intelligence particulière au service de l'intelligence collective en investissant sur des valeurs responsables et qui vont finalement nous accompagner tout au long de notre vie. Si on investit dans des boîtes qui sont... d'un point de vue gérant ou particulier, c'est-à-dire des boîtes qui sont pas, qui respectent pas notre environnement, donc notre qualité de vie, elle va être dégradée fondamentalement. Et en plus, on a aussi un effet marché, c'est-à-dire que les flux arrivent sur ces boîtes-là, et donc la performance boursière se fait aussi mécaniquement. Faut jamais oublier que c'est l'offre et la demande dans la bourse. Hein, ouais.
Donc là, les flux investissent massivement sur ces sociétés vertueuses, on va dire. Mmh, ouais. Et même, on a vu maintenant que c'était plus opposable, hein, performance versus finance durable.
Bien sûr, maintenant, effectivement. Oui, parce qu'en effet, comme le dit Victor, les flux vont vers ces sociétés responsables. Et puis aussi, je crois que sincèrement, c'est vraiment un critère supplémentaire de qualité, un gage de qualité, un engagement de la société qui nous permet d'être beaucoup plus confiants finalement sur la qualité du management, de la gouvernance, de la façon dont la société effectivement s'inscrit dans son environnement. Et je crois que maintenant, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a des critères financiers qui sont évidemment toujours extrêmement importants. Mais à côté de ces critères financiers, il faut prendre en compte ces critères extra-financiers qui garantissent effectivement une bonne performance.
Alors, on va se tourner vers nos CGP. Ils vont nous dire si, sur le terrain, allez, dans la vraie vie, est-ce que vos clients sont les uns et les autres intéressés par cette finance durable? Est-ce que c'est quelque chose, j'allais dire, un délire de journaliste, voilà, un peu dans le microcosme, on en parle beaucoup. Mais sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé ou que vous proposez à vos clients? Edouard.
Je dirais les deux. Première chose, pour ceux qui sont avertis, oui, il y a une demande. Par acquis de conscience ou par volonté de pouvoir participer justement à cet impact environnemental. Et c'est proposé également par nous-mêmes, effectivement, parce qu'on a de plus en plus de fonds qui sont ISR aujourd'hui. Alors, je pense qu'on parlait de flux tout à l'heure. Ils sont de plus en plus importants aujourd'hui parce qu'effectivement, ça permet d'avoir un impact sur l'environnement. On sait qu'aujourd'hui, le secteur de l'immobilier représente 40% des émissions de CO2. Et c'est pour moi l'ISR, un levier d'action qui permettra au secteur de l'immobilier de justement participer à l'amélioration de l'environnement, simplement. Ouais.
C'est vrai que c'est un des plus gros responsables. Hein, et les programmes, on le voit avec la nouvelle rénovation énergétique, les RE2020 sont en train d'adresser le sujet. Jean-Luc, pour vos clients, longtemps, je crois que ça reste, hein, le critère numéro un, c'est quand même la performance. Ensuite, c'est la sécurité. Et en troisième, on voit apparaître ce critère, effectivement, finance durable, faire du bien à la planète, faire du sens avec son épargne. Est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce que vous avez noté, après cette crise, un changement ou pas trop?
Alors, pas trop, oui. Elle est, au niveau de ma clientèle, je dirais qu'il y a 5% de ma clientèle, 5-6% qui réclament ce genre de fonds.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Mais comme je disais tout à l'heure, les clients, ça s'éduque. Et je pense qu'aujourd'hui, alors je comprends qu'une société de gestion soit, je dirais, entre guillemets, obligée d'avoir dans sa gamme au moins un fonds ISR. Mm-hmm. Je crois que je ne connais pas beaucoup de sociétés de gestion qui ne l'ont pas fait à ce jour. D'abord parce que ça permet de donner la collecte en général. Mais d'un autre côté, moi, l'image, ça me donne un peu l'idée de... C'est comme... Je compare ça au bio. C'est-à-dire le bio dans l'alimentaire. Si vous regardiez, il y a 10 ans, dans un hypermarché, le rayon bio, c'était 400 mètres carrés, 4 ou 5 mètres carrés, pas plus. Aujourd'hui, c'est 15 à 20% des surfaces dans les grandes surfaces.
Et ça accélère.
Voilà, ça accélère. Alors, est-ce que c'est un effet mode ou pas? J'en sais rien. Est-ce que c'est nécessaire? Certainement, comme vient de le dire Edouard, notamment au travers du secteur immobilier, ça me paraît une bonne chose, mais je pense que c'est exagéré et que forcément, dans toutes les gammes ISR, il y a du bon et du moins bon, donc il faut avant tout bien sélectionner.
Pour la suite de l'année, puisqu'on a dit un premier très très bon semestre en bourse, peut-être un peu de volatilité là en ce début d'été, à quoi on peut s'attendre, Anne d'Anselme, et sur quel fonds on peut se positionner?
Alors c'est vrai qu'on a eu un très 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 bon début d'année, très rapide, une hausse très rapide. Là évidemment on est un peu à la croisée des chemins puisque voilà, après 17% de hausse c'est plus compliqué de continuer à monter. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on regarde la valorisation actuelle du marché, on est à 17 fois les résultats en moyenne. C'est pas le pic non plus en réalité parce que certes, on a beaucoup monté, mais d'un autre côté aussi, on a eu des prévisions des perspectives de résultats qui ont été revues en hausse par les sociétés, puisque la dynamique de croissance mondiale, évidemment, porte les résultats des sociétés. Donc, on a finalement des niveaux de valorisation qui sont certes élevés, mais pas non plus exceptionnellement, ne sont pas aberrants. Voilà. Donc maintenant, évidemment, on va être extrêmement attentif à l'évolution aussi des taux. C'est vrai que la baisse récente des taux a évidemment aidé le marché. Si on repart dans une dynamique différente, on va avoir pas mal de volatilité qui va être associée à cette remontée des taux si elle arrive. Et puis, on va vraiment connaître, à mon avis, une période de volatilité. Et peut-être, mais nous on n'est pas négatif aujourd'hui sur les marchés.
Confiant sur peut-être la fin de la pandémie, un vaccin qui peut traiter tous les variants, puisqu'il y en a de plus en plus.
Ça, on va pas se prononcer là-dessus, parce qu'on est surpris tous les jours sur ce point. Donc, je vais pas être en capacité de répondre à cette question. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que fondamentalement, la croissance, elle est là. Elle est plutôt meilleure que ce qu'on avait anticipé. D'un autre côté, il n'y a pas eu non plus d'emballement sur les taux. Au contraire, on voit bien qu'il y a eu une détente. Donc, on a toujours finalement le meilleur des mondes pour la valorisation des marchés. Donc, pourquoi aujourd'hui paniquer complètement et penser que finalement la reprise ne sera pas là, non, on n'est pas à ce stade. Maintenant, est-ce que le pic de la reprise a été atteint? Ça, oui, on le pense. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui se passe en Chine, quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, je pense qu'on a atteint le pic de la croissance au T2. En Europe, ce sera probablement au T3. Donc le pic est derrière nous, mais c'est pas pour autant qu'effectivement on va avoir un effondrement. Moi, je n'y crois pas.
Optimisme prudent, donc, si on peut résumer. Victor, la dernière fois qu'on était monté autant, c'était en 98. Bon, à l'époque, on avait gagné la Coupe du Monde en été. En revanche, juste après, il y avait un gros crack, moins 12% en août. Là, c'est, les années se suivent et ne se ressemblent pas. On a fait un bon 17%, par contre, on a perdu l'euro.
M'en parlez pas. Non, mais si on a perdu l'euro, mais on a gagné aussi on a appris pas mal de choses dans nos vies, et on a appris, et je rejoins Anne, c'est peut-être un peu redondant, mais allons tous sur une vie de qualité, et en sélectionnant toujours la qualité dans nos choix, que ce soit nos choix personnels, nos choix de vie, nos choix boursiers, nos choix de ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et nous, on l'a fait. Et il faut être aussi tactique et se réadapter, il faut être un peu polyvalent. Et l'année dernière, nous, on a fait une super année, on était ultra contents, parce que justement, on s'est remis en question. Et en fait, c'est peut-être... Mbappé peut-être va se remettre en question, je sais pas.
On lui souhaite
encore plus performant, et de rester au PSG surtout.
Dans un an ou deux ans, ça on verra. Autre débat. Jean-Luc Henry, pour la suite des événements, bon, bien sûr, il y a l'été, toujours une petite trêve quand même pour vous, pour les clients, en tout cas on l'espère. Les gens sont plutôt... c'est intéressant ce que disait Victor, là, les changements de vie. Est-ce que vous observez, alors peut-être pas sur le portefeuille boursier, mais plus les changements de vie sur l'immobilier notamment. On parle beaucoup aussi de changements de villégiature, des gens qui réorientent un peu leur patrimoine. C'est ce que vous observez aussi ?
C'est vrai qu'on a, on l'a un peu remarqué, mais bon, c'est pas l'essentiel non plus. Moi, je dis que pour rebondir plutôt sur ce qui a été dit là sur les marchés, première chose déjà, le plus gros des dangers aujourd'hui, c'est d'être complètement en dehors des marchés. On l'a bien vu ce qui s'est passé après cette crise. Hein, la crise, on l'a dit tout à l'heure, était brutale, mais derrière, la hausse a été brutale aussi et bien plus importante. Donc celui qui est sorti pendant la crise et qui n'a pas pu revenir parce qu'il attendait une baisse, aujourd'hui, il est très mal parce qu'en fait, il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer. Donc ça, c'est la première chose. Et pour ceux à qui on a, qui ont écouté nos conseils et qui sont restés sur les marchés, donc qui ont bien profité, ben, je dis que moi, pour cet été-là, c'est ce que je commence à faire là, depuis quelques jours, c'est on va commencer à écréter les plus-values. Écréter les plus-values, c'est-à-dire qu'on rabote. Ça ne veut pas dire qu'on supprime des lignes, hein, mais si on avait investi 100 et qu'on a 150, et ben les 50, on les met dans la poche. Ouais. Moi, je donne toujours cette image avec le casino. Hein. Vous allez jouer au casino, vous avez 100 euros dans la poche. Coup de bol, vous gagnez 500 euros. Ben, ce que vous avez gagné, vous mettez dans l'autre poche et puis vous repartez sur la base initiale.
D'accord.
Et ben, sur les marchés, c'est exactement la même chose. C'est très facile à dire, très difficile à faire.
C'est très difficile à faire, justement, hein, toujours de sortir, hein, d'acheter, c'est facile, de vendre, c'est compliqué. Bon, Edouard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la suite, voilà, après cette première année un peu compliquée, on vous souhaite une deuxième et des années suivantes plus fastes et plus simples.
Je me le souhaite également, effectivement, mais aujourd'hui, je ne me retrouve pas face à un mur qui m'empêche de me développer, parce qu'on a des Français qui ont de plus en plus d'épargne mis de côté, donc qui ont un besoin aujourd'hui. Ils ont besoin d'être conseillés, d'être orientés vers les produits qui leur correspondent, parce que c'est ça avant tout, c'est le client au cœur de notre travail. Et aujourd'hui, il existe des milliers de produits sur le marché, et il faut trouver le produit qui correspond à la fois à sa situation, mais aussi à son projet. Donc il y a toujours une demande, et vous avez abordé le sujet de l'immobilier, qui est quand même très présent aujourd'hui, même si le marché du neuf est en baisse. Aujourd'hui, il est un peu à la peine. On a toujours des produits, même si les livraisons sont plus tardives, qui permettent de répondre à des objectifs. Et je pense que c'est le plus important.
Très bien. Bon, ben, on refera de toute façon des sujets hein, sur l'immobilier. C'est vrai que c'est un peu les deux pattes hein, dans la gestion de patrimoine, de l'immobilier de l'un côté, des marchés, des investissements financiers également. En tout cas, un grand merci pour avoir éclairé notre lanterne sur ce bon premier semestre et puis peut-être ce qu'il faut faire. Donc, on l'a compris, hein, optimisme prudent de la part des gérants, une bonne technique, effectivement, d'écréter les plus-values puisqu'il y en a forcément, en tout cas, si vous êtes resté investi durant ces derniers mois. Un grand merci, Anne Danselme, directeur général adjoint de COGEFI. Merci. Gestion. Merci également à Victor Pierriou, responsable des relations partenaires chez COGEFI. Edouard Delahoussé, merci pour nous avoir apporté effectivement votre vision de jeune CGP. Et puis Jean-Luc hein, de CGP avec beaucoup plus d'expérience. Merci Jean-Luc Henry du cabinet Jean-Luc Henry, nos conseillers en gestion de patrimoine. Voilà une émission préparée par Sophie Bernard qu'on remercie. À la technique, eh bien, on avait Baptiste Plouchard. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.